France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Nous avons appris la mort cette nuit de l'architecte américain d'origine chinoise, Yao Ming-pei, couronné notamment du Nobel de l'architecture en 1983. Il était notamment connu pour la conception de la pyramide du Louvre à Paris, mais également le musée de la National Gallery à Washington ou encore la tour de la Banque de Chine à Hong Kong. Yao Ming-pei était âgé de 102 ans. Donald Trump veut privilégier l'immigration au mérite. Le président américain a dévoilé hier soir un vaste projet de réforme du système migratoire aux États-Unis. Il souhaite désormais sélectionner les étrangers sur la base de leur réussite et non plus en raison de leurs liens familiaux. Cette réforme n'a toutefois aucune chance d'être adoptée par la Chambre des représentants. Le locataire de la Maison Blanche donne en tout cas le ton de la campagne présidentielle pour l'élection de 2020. Lui se verrait bien président des États-Unis, le maire de New York, Bill de Blasio, se lance dans la course, malgré des médias hostiles et des sondages défavorables. Il est le 23e candidat démocrate. Un journaliste a été assassiné sur la côte caraïbe mexicaine. Cet indépendant avait récemment porté plainte après avoir reçu des menaces. Il bénéficiait d'une protection. C'est le 5e journaliste tué au Mexique depuis le début de l'année 2019. Ils sont de nouveau convoqués devant la justice lundi prochain. Patrick et Isabelle Balkany seront jugés à partir de la semaine prochaine sur des dossiers de corruption et de blanchiment d'argent. Hier, dans le volet fraude fiscale de cette affaire, le parquet national financier a requis de la prison ferme jusqu'à 4 ans à l'encontre de Patrick Balkany, ainsi que 10 ans d'inéligibilité. Le jugement sera rendu le 13 septembre. Enfin, c'était l'une des dispositions controversées de la loi Pacte sur la croissance des entreprises. Le Conseil constitutionnel a validé hier la privatisation d'Aéroports de Paris. Les sages ont estimé que le gestionnaire du groupe n'était pas en situation de monopole, comme le considéraient en revanche les opposants à ce projet.
Chaque jour sur France Culture à midi, La Grande Table par Olivia Gisbert.
Il pose un regard neuf sur un sujet récurrent de son œuvre, le tourisme de masse. Ils viennent cette fois des quatre coins du monde pour photographier l'un des monuments les plus visités de France. Martine Parr les a alors photographiés, photographiant ou se photographiant pour une exposition visible, invisible à voir au château de Versailles. Attention, le petit oiseau va sortir.
Okay. Cheese. Okay. There you go.
La Grande Table, ce vendredi à midi et sur franceculture.fr.
Et pour bien commencer ce vendredi sur France Culture à 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde. Ce vendredi 17 mai, les antennes de Radio France se mobilisent contre l'homophobie. Et comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée dans le réveil culturel, je vous propose donc ce matin de faire un point sur l'évolution des mentalités concernant les questions de genre et des combats LGBT dans la bande dessinée française contemporaine avec deux invités de marque. Lisa Mandel, l'autrice de bande dessinée, rencontrée il y a quelques jours dans son atelier marseillais à deux pas de la gare Saint-Charles, et avec notre jeune camarade du journal Casemate, notre partenaire Sonia Deschamps, présente au studio avec nous. Et quand je dis nous, c'est aussi Corinne Amar à la coordination, Tahar Bouklifa à la prise de son et Vincent Abouchard à la réalisation du Réveil culturel.
Le Réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Sonia Deschamps.
Bonjour Toufik, bonjour à tous.
Journée spéciale consacrée à la lutte contre l'homophobie sur France Culture et les autres antennes de Radio France. Et Sonia, parce que la lutte contre l'homophobie, ça passe aussi par une plus grande visibilité des amours et des luttes homosexuelles, bi ou transgenres. Quel titre nous conseillez-vous, vous qui lisez tout ce qui s'est dit en ce moment en bande dessinée ?
Eh bien, j'aimerais beaucoup commencer avec Les Gouines à suivre d'Alison Bechdel. C'est exactement Alison Bechdel, c'est une autrice de bande dessinée américaine que vous connaissez peut-être pour le titre Fun Home, qui avait très bien fonctionné, qui était absolument superbe.
Là où elle racontait son coming out.
Exactement, c'était publié chez De Noël Graphique et c'était extrêmement réussi. Mais avant cela, entre 1983 et 2008, Alison Bechdel, elle a réalisé plus de 500 strips, mettant en scène donc le quotidien de lesbiennes new-yorkaises. Et c'est assez génial, hein, ce qu'elle voulait au départ avec cette série, eh bien, c'était rendre les lesbiennes plus visibles aux yeux d'une société puritaine. Au final, c'est tout un pan de la contre-culture américaine que l'autrice a mis en scène pendant plus de 20 ans. Alors on suit dans Gwyn à suivre un couple d'amis lesbiennes. Il y a Mo, l'alter ego de l'autrice, très engagée politiquement. Mo qui s'emporte pour un rien et qui ne trouve pas de copine. Il y a Loïs qui, elle, au contraire, enchaîne les aventures. Et puis il y a Clarisse qui a une vie de couple rangée avec Tony. Tony qui, elle, cache son homosexualité à ses parents catholiques très très pratiquants. Et ce qui est passionnant, en fait, c'est qu'à travers ce groupe de copines qui s'interrogent sur la société et la place qu'on leur accorde, eh bien, on suit toute l'évolution de l'Amérique aussi. C'est drôle, c'est intelligent, c'est à lire absolument. C'est donc l'essentiel des Gwyn à suivre. C'est paru en 2 tomes aux éditions Même Pas Mal.
Est-ce qu'il y a d'autres titres? Et puisque, en ce moment, vous le savez, Sonia, on est en plein Festival de Cannes, même si nous, on n'y est pas. Et qu'au Festival de Cannes, cette année, il y a un certain Abdelkichiche, lequel Abdelkichiche avait remporté la Palme d'Or avec La Vie d'Adèle, grand film adapté d'une bande dessinée.
Exactement, adapté du Bleu est une couleur chaude de Julie Marot. C'était le tout premier album de Julie Marot, sorti il y a déjà près de 10 ans. Ça passe vite, c'est l'histoire d'une jeune lycéenne, Clémentine, qui découvre son homosexualité en tombant amoureuse d'Emma, une étudiante aux cheveux bleus qui la passionne, qui la fascine. Il est question dans cette bande dessinée d'amour, de désir, mais aussi de la crainte du regard de l'autre et puis d'exclusion aussi. C'est sensible, c'est émouvant, c'est puissant. Et puis je pense vraiment que pour tous ceux qui ont vu le film, ça ne gâche en aucun cas le plaisir de découvrir ou de redécouvrir cette bande dessinée. C'est donc Le Bleu est une couleur chaude, c'est de Julie Marot et c'est publié chez Glénat.
Donc vous avez décidé de mettre les filles en avant, Sonia Deschamps, parce
uniquement.
Que vous auriez pu parler de l'allemand Ralph Konin qui tenait un vrai succès en librairie, ou de Fabrice Nau, le français.
Mais vous ne me laissez pas assez de temps pour parler de tous ces auteurs. Évidemment, Fabrice Nau, le journal, on ne peut que le recommander. Bien sûr, c'était publié chez Ego Comics et c'est vrai qu'il était vraiment là au tout début de ces auteurs qui commençaient à raconter ses amours, sa vie, ce quotidien. Et c'est vraiment extrêmement marquant dans l'histoire de la bande dessinée.
Ouais.
Tout à fait. Il y a un autre auteur dont j'aurais aimé vous parler pour terminer, dans un style très différent des albums dont je vous ai parlé précédemment. C'est Pochep, son dernier album, Vieille Peau, est très très drôle. Il s'y met en scène et c'est la cata, tout simplement. La cinquantaine est là, son ventre se relâche, ses genoux lui font mal, sa calvitie augmente, des poils blancs apparaissent, il vieillit quoi. Mais lui, il veut continuer à plaire, hein, et notamment aux garçons des clubs gays branchés qu'il fréquente. Alors, inscription à la salle de muscu, alimentation équilibrée, crème de jour et de nuit. Le dessinateur en fait vraiment des tonnes. Et ça marche à fond, hein. C'est plein d'autodérision, c'est drôle, c'est mordant, c'est efficace. Et c'est publié chez Fluide Glacial, c'est Vieille Peau de Pochep.
Alors, en résumé, les 3 coups de cœur de Sonia Deschamps concernant justement les bandes dessinées qui sont à la pointe pour la lutte contre l'homophobie et pour la visibilité des LGBT.
L'essentiel des Gwyn à suivre d'Alison Bechdel, Le Bleu est une couleur chaude de Julie Marot et Vieille Peau de Pochep.
Merci Sonia Deschamps.
Avec joie.
On retrouve dans un instant Lisa Mondel, enregistrée chez elle dans son atelier à Marseille. Bonjour Lisa Mondel, vous êtes donc la première invitée de cette journée spéciale contre l'homophobie, une journée Radio France. Puisque vous êtes auteur de bande dessinée, je vais vous poser la question, est-ce que la bande dessinée peut faire quelque chose contre l'homophobie ?
À partir du moment où on a un moyen d'expression qui est lu par des gens, oui, on peut faire quelque chose contre l'homophobie à travers ses productions. Après que ce soit en bande dessinée, en cinéma, en télévision ou en littérature, oui, dès qu'on a les moyens d'avoir la parole, il faut la prendre parfois à ce sujet, pas obligé d'en faire son fonds de commerce, mais effectivement, oui, on a tous un rôle à jouer, je pense, là-dedans, surtout les personnes concernées, quoi.
Est-ce que vous vous êtes posé cette question, c'est-à-dire passer par la bande dessinée, par ce que vous faites, pour lutter contre l'homophobie ?
Évidemment, je me la suis posée, je l'ai traitée dans plusieurs bandes dessinées. Alors, parfois en arrière-plan, parce que moi, à l'époque, mon idée, c'était plutôt de normaliser, en fait, l'homosexualité pour justement déclencher de moins en moins de haine et de réactions épidermiques. Donc, par exemple, il y a une BD jeunesse que j'ai faite où le petit garçon se retrouve avec une maman qui se met en couple avec une autre femme. Donc, je parlais de l'homoparentalité, j'ai fait une autre bande dessinée où c'est l'histoire d'amour entre deux adolescentes. Mais à chaque fois, l'homosexualité n'est pas le problème, le sujet central, c'est juste que c'est une composante de l'histoire. parce que je pense que voilà, plus les gens en fait normaliseront la chose et s'habitueront à voir des homosexuels, des gays, des lesbiennes, des trans, des personnes trans se tenir la main, s'embrasser dans la rue, et plus en fait ils trouveront ça normal et moins je pense qu'il y aura de haine. Je pense que la recrudescence de haine qu'on voit en ce moment, c'est aussi parce qu'il y a, plus de liberté, plus de droits pour la communauté LGBT, plus. Et du coup, ça déclenche, c'est tous les grands mouvements en fait d'avancée démocratique, d'avancée sociale, ont déclenché des réactions quoi. Donc voilà, c'est pas étonnant en même temps qu'il y ait de la violence en ce moment parce que voilà, on a de plus en plus de droits aussi. Faut dire la réalité, même si ça traîne, on va quand même vers un mieux.
Vous dites on.
Oui, tous ensemble, on va vers un mieux au niveau des droits LGBT quand même.
Alors, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez représenté, justement, puisque là vous dites, Lisa Mandel, que c'est par plutôt un livre pour enfants que vous avez commencé à parler, à traiter de ce sujet, comment vous l'avez dessiné?
En fait, donc c'est une bande dessinée qui s'appelle Eddie Milveux, qui est sortie à l'époque aux éditions Milan et qui est maintenant chez Bayard. Et c'est un petit garçon qui fait des vœux et il a une blatte magique et à chaque fois qu'il fait un vœu, évidemment, le vœu s'exauce de travers. Et à un moment donné, c'est juste que ses parents, il se trouve que ses parents divorcent pendant l'histoire. En arrière-plan, ses parents divorcent, mais c'est pas lié à lui, c'est pas parce qu'il a fait un vœu spécialement, mais sa mère se met avec une femme et lui, il le découvre au fur et à mesure. Voilà, je l'ai. Mais en fait, encore une fois, c'est pas l'enjeu central, c'est-à-dire que ce n'est jamais un problème que sa mère soit avec une autre femme. Il se trouve qu'elle est juste avec quelqu'un d'autre. Et il se trouve que cette quelqu'un d'autre est une femme. Mais à l'époque, en tout cas, j'ai vraiment tenu à ça, à pas stigmatiser non plus dans mon travail et singulariser trop l'homosexualité, quoi. Alors j'ai fait j'ai fait une bande dessinée chez Gallimard qui s'appelle Princesse M Princesse, où là c'est une histoire d'amour entre deux adolescentes dans un contexte très surnaturel, quoi. Enfin il y a beaucoup de fiction, de science-fiction même, et pareil là ce qui compte c'est l'histoire d'amour et ce qui les empêche de se retrouver mais qui est pas lié à leur orientation sexuelle. Encore une fois, il se trouve que c'est deux femmes, enfin que c'est deux jeunes filles, mais ça aurait pu être j'ai essayé de faire l'histoire pour que même si ça avait été un couple hétérosexuel, l'histoire aurait eu quand même un intérêt. Voilà, tout l'intérêt reposait pas sur l'orientation sexuelle des personnages. Et ensuite, plus tard, j'ai fait une BD qui s'appelle Super Rainbow, où là, c'est de l'autofiction, donc je me mets en scène en super-héroïne. Pour obtenir mes super pouvoirs, je suis obligée d'avoir un orgasme. En fait, on est deux super héroïnes à la fois, et pour que les combinaisons déclenchent leurs pouvoirs, il faut avoir un orgasme. Donc c'était aussi là à la fois pour rigoler parce que ça c'est parti d'une blague et ça a fait un vrai sujet, mais ensuite c'était aussi, c'est vrai, l'empowerment de personnalités lesbiennes, parce que finalement voilà, c'est des super héroïnes, elles sont ni hyper belles ni hétéro, elles c'est des femmes homosexuelles banales qui se retrouvent héroïnes, et c'était aussi une manière de prendre un peu le pouvoir. Dans au moins l'espace d'une bande dessinée, voilà.
Et avec les éditeurs, à chaque fois que vous leur proposiez ce genre de sujet avec des couples homosexuels, ça n'a pas posé de problème, Lisa Mandel?
Aucun. En fait, la première fois, Eddie Milveux, j'ai même pas demandé, puisque l'histoire, c'était le petit garçon et sa blatte. Quand la mère se sépare pour se mettre avec une autre femme, personne m'a rien dit parce que ça faisait partie de l'histoire. Je l'ai pas proposé, quoi. Bah, après, je faisais lire les crayonnés, mais c'est pas, j'ai pas vendu ça comme ça. Et c'est venu au fur et à mesure. Princesse M Princesse, c'est le sujet. Ça devait être de toute façon l'homosexualité parce que c'était la collection Bayou qui parlait aussi des problématiques adolescentes. Donc ça les intéressait tout à fait. Et Super Rainbow, à Super Rainbow, ça faisait déjà 10 ans que je faisais de la BD. J'avais aussi la confiance des éditeurs. Et puis c'était d'abord comique avant toute chose. Donc non, j'ai eu aucun souci d'aborder le projet, d'aborder le sujet avec mes éditeurs. Mais en même temps, c'est mes éditeurs, donc ils me connaissent. Et je pense que ce serait vraiment incroyable qu'ils me refusent une BD sous ce prétexte-là. Surtout qu'un éditeur, c'est quand même avant tout quelqu'un qui veut vendre des livres, et que je pense que le sujet LGBT, de toute façon, est un sujet qui peut intéresser des gens. Et donc, à ce niveau-là, le monde de l'édition BD, en tout cas celui que je connais moi, je l'ai jamais trouvé fermé. Il y a d'ailleurs des personnalités qui sont dans chaque maison d'édition qui sont gays et lesbiennes, et on les connaît. Enfin voilà, c'est un milieu qui est quand même, le milieu artistique en général est quand même un milieu plutôt ouvert d'esprit à ce niveau-là. En tout cas, en ce qui me concerne, autour de moi et avec dans le milieu où moi j'évolue, on est quand même très privilégiés.
Lisa Mandel, la seule fois où vous avez traité l'homosexualité comme étant un phénomène, en vous posant la question sociétale autour de cela, c'est en prenant du recul, c'est en allant au Liban. Parce que là, au Liban, vous avez un regard et vous profitez du fait que ce soit un pays étranger, que vous découvrez tout à la fois un nouveau pays, une nouvelle culture, pour aborder ce thème.
Oui, tout à fait. En fait, quand j'ai fait Un automne à Beyrouth, au départ, j'ai été invitée par une ONG, donc j'ai plutôt parlé des camps de réfugiés syriens au nord du Liban. Puis ensuite, j'y suis retournée 4 mois. Et là, en fait, je me suis retrouvée en fait pas mal dans le milieu artistique et aussi dans le milieu LGBT au Liban. Donc du coup, forcément, ça donnait du grain à moudre. Et puis aussi, j'ai eu un contact avec une amie qui bossait dans une galerie à Montréal et qui m'a demandé de faire un travail autour du féminisme, autour du mouvement LGBT. Donc c'est aussi pour ça que je suis allée interroger des féministes et interroger des personnes LGBT à Beyrouth. Et voilà, donc oui, là j'en ai parlé plus comme un fait de société et de manière plus journalistique, on va dire.
Et c'est dans ce automne à Beyrouth qu'effectivement, par le jeu de comparaison, comment ça se passe chez eux, comment c'est chez nous, comment c'est perçu là-bas, comment c'est perçu ici, qu'on peut avoir un peu une idée de l'évolution des mentalités.
Oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire que au Liban, évidemment, c'est beaucoup plus caché. Il y a quand même des associations gays et lesbiennes, mais qui sont évidemment dès qu'on peut leur mettre des bâtons dans les roues, les empêcher de s'exprimer, bah il y a toujours un religieux qui traîne et qui va les museler, on va dire. Ils ont voulu faire une gay pride, elle a été interdite. Mais néanmoins, ce qui est intéressant au Liban et qu'on va peut-être pas rencontrer dans d'autres pays, c'est qu'au Liban, les gens, en tout cas la classe sociale qui peut se permettre de s'afficher un petit peu, c'est des gens qui ont souvent fait leurs études à l'étranger, donc qui sont plutôt de bonne famille, qui connaissent très bien le fonctionnement d'autres pays en matière de droits LGBT. Du coup, quand ils reviennent au Liban, ils sont très choqués, finalement presque plus que moi. Moi, j'ai trouvé que les personnes homosexuelles au Liban étaient plus choquées de la manière dont on traitait les LGBT chez eux que moi. Moi, ça m'étonnait pas trop d'arriver dans un pays comme le Liban au Moyen-Orient et que les droits soient plus réduits que dans un pays comme la France, qui pourtant n'est pas non plus avant-gardiste, hein. Mais eux, enfin, alors eux, ils avaient étudié aux États-Unis, ils avaient étudié en Angleterre, ils avaient étudié en Australie, enfin, et ils étaient choqués. Eux, ils trouvaient que c'était vraiment inqualifiable la manière dont ils étaient traités. Faut voir que le Liban, par rapport aux pays voisins, c'est quand même un des pays les plus ouverts à ce niveau-là. Hein. Donc, même si c'est pas le top non plus, les gens se battent pour être reconnus quand même et ils se font pas forcément assassiner ou mettre en prison. Il y a eu des lois très très liberticides, mais qui se sont, je pense, qui ont été abrogées. Mais aujourd'hui, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de progrès à faire. Mais bon, au vu des derniers événements en France aussi, hein, c'est pas comme si le Liban il y avait le monopole, voilà, ou des pays comme ça avaient le monopole de l'homophobie. En France, on voit bien qu'il y a beaucoup de violence et une recrudescence de la violence.
Comment vous l'expliquez, justement, cette recrudescence de la violence, Lisa Mandel?
Pour moi, elle s'explique par le fait qu'on a de plus en plus de droits et qu'on est de plus en plus visible. Et donc, à partir de là, on va déclencher, en tout cas dans un premier temps, des réactions violentes de tous les réactionnaires, des gens qui n'acceptent pas l'homosexualité, qui veulent bien savoir que ça existe, mais qui veulent pas l'avoir devant les yeux. Et tous ces gens-là, perdent de leur sang-froid, je pense, quand ils voient que oui, la rue est aussi à nous. Oui, on a le droit de montrer notre amour pour une autre personne dans la rue, comme tout le monde. Et je pense que ces réactions violentes, elles vont se tasser au fur et à mesure que les gens vont accepter la situation et se rendre compte que c'est comme ça, voilà.
Le militantisme LGBT a-t-il encore des beaux jours devant lui ?
Je pense que c'est un militantisme qui ne doit jamais s'arrêter parce que la France, comme tous les pays, je pense qu'il y a un ferment de toute façon homophobe, antisémite, islamophobe et xénophobe en France qui sera à combattre tout le temps parce que quelque part c'est le propre. Là, je vais faire la philosophe à deux balles, mais c'est quand même le propre de la nature humaine d'avoir une tendance à avoir peur de ce qu'il connaît pas. Donc c'est quelque chose qu'on pourra jamais arrêter de combattre. On va pas se réveiller un matin et les gens seront pas devenus naturellement altruistes et ouvert, je veux dire, c'est quelque chose, même à titre personnel, moi, j'ai dû combattre quelque part des tendances que j'avais, xénophobes et racistes, que j'ai dû combattre au cours de ma vie, parce qu'on ne naît pas naturellement, ou si, peut-être avant 3 ans, mais on ne naît pas naturellement ouvert aux autres. Il faut à un moment donné déconstruire ces schémas pour accepter les autres, et de la même manière que je demande qu'on le fasse pour moi et pour la communauté en général LGBT, quoi. L'ouverture d'esprit, c'est quelque chose qui se cultive et qui se travaille.
Nina Bouraoui, dans son dernier roman, dit qu'elle a découvert son homosexualité et en même temps son homophobie. Est-ce que vous êtes passée par là, Lisa Mandel ?
Oui, je pense que quelque part, je suis passée par là, sachant que moi, dès que j'ai fait mon coming out, c'est-à-dire j'avais peut-être 19 ans, je me suis mise tout de suite à produire. J'ai fait un petit magazine qui s'appelait Hercule à la Toison d'Or, que je distribuais dans mon école, où on était 4 personnes LGBT, où on le vendait, c'était de la BD humoristique. Donc très vite, en fait, moi, je me suis affichée et j'ai un petit peu milité. Mais je me disais souvent, ah, j'ai pas de chance. En fait, c'était plus le truc de dire, j'ai pas de chance. J'avais un peu honte d'en parler devant certaines personnes. Aussi, on sait pas à qui on s'adresse. On sait pas si les gens sont ouverts ou pas. Mais c'est vrai que longtemps, j'ai vu ça un peu comme une malédiction quand même, de me dire, ça aurait été tellement plus simple de ne pas être lesbienne. Mais après, aujourd'hui, je trouve que ça fait partie de moi et je le remets plus en question du tout. Pour moi, c'est complètement naturel, de la même manière qu'on trouve de l'homosexualité dans la nature. Et c'est d'ailleurs un argument de certains juges au Liban pour dire l'homosexualité n'est pas contre nature, puisque dans la nature, il y a une proportion d'animaux homosexuels. Donc, c'est dans la nature. Et maintenant, je vois ça plus comme une composante de ma personnalité, au même titre que la couleur de mes cheveux, que mon poids, que ma taille. Je le vois comme une composante de moi-même et je le vois pas comme une tare, voilà. Et je pense qu'au début, malgré tout, même si j'étais dans une famille très aimante, très ouverte et dans un cadre parfait pour pouvoir exprimer ça, je l'ai vu comme une tare. Là où 20 ans plus tard, je le vois vraiment comme voilà un trait de qui, ça fait partie de qui je suis. C'est ni bien ni pas bien finalement. J'en tire pas de fierté, mais pas de honte non plus, quoi.
Personnalités qui ont fait leur coming out, qui vous ont aidé quand vous étiez adolescente, pour qui c'était important qu'elle soit publique et qu'elle affiche clairement leurs orientations sexuelles.
Bah moi, j'étais ado et jeune adulte dans les années 90 et je peux dire que c'était quand même encore la décennie du placard. Hein. C'est-à-dire il y avait le sida en plus qui décimait tout le monde. Les gens disaient pas qu'ils mouraient du sida. Enfin, les célébrités faisaient pas leur coming out. Moi, je trouve que c'est ces 10 dernières années qu'on a pu assister à des coming out très intéressants, ou 15 dernières années. À mon époque, Hélène DeGeneres avait pas fait son coming out. George Michael n'avait pas fait son coming out. Et en fait, la seule personne que moi j'avais vue comme personnalité lesbienne, mais c'était une fiction, c'était Gazon Maudit. J'avais pas du tout aimé, mais parce que voilà, à l'époque, on a une homophobie. Mais bon, j'avais pas du tout aimé l'image renvoyée par ce film, quoi. J'aimais pas du tout qu'il y ait Alain Chabat qui était soi-disant le beau gosse, et que c'est parce que il s'occupait pas de sa femme, Victoria Abril, qu'elle avait une relation avec Josiane Balasco, qui était quand même très très butch, quoi. Et moi, j'aimais pas. Ça donnait vraiment l'impression qu'en fait, elle s'était tournée vers les femmes par défaut, Victoria Abril. Et puis, j'aimais pas le personnage de Josiane Balasco, me correspondait pas. C'est-à-dire que je me projetais pas dedans. J'aimais pas le côté super masculin. Qu'aujourd'hui, j'ai aucun problème avec ça, mais à l'époque, j'ai pas trouvé de rôle modèle dans ce personnage. Plus tard, ça a été plutôt j'ai vu des films, il y a eu un festival LGBT à Strasbourg, et je pense que de voir des films sur le sujet, c'est ce qui m'a le plus aidé à ce moment-là, à un moment où j'avais pas encore fait mon coming out, et où du coup, je vivais ça un peu dans l'ombre, c'était conceptuel plus que réel, quoi. Il y a des gens qui sont concernés, qui ont envie de mener un combat contre l'homophobie, bah, bien sûr, et c'est hyper important qu'ils le fassent. Après, évidemment, moi, je suis pour la convergence des luttes, et je pense que quelqu'un qui est homophobe, c'est aussi quelqu'un qui a de grandes chances d'être antisémite, d'être raciste. Enfin, pour moi, ça va avec. À partir du moment où on n'accepte pas l'autre tel qu'il est, c'est un problème général. Je pense que oui, effectivement, ce qu'il faut, c'est...
Ça a un peu changé, hein. Aujourd'hui, on peut être homo, affiché homo, et voter pour des partis d'extrême droite, par exemple. Que ce soit en France ou ailleurs.
J'ai pas dit qu'on ne peut pas être homo et ne pas être de droite, et ne pas être, on va dire, d'extrême droite. Je dis qu'en général, quand on est homophobe, il se peut que ce soit accompagné d'un petit racisme, enfin d'une petite xénophobie, d'un petit antisémitisme. Pour moi, c'est un pack, l'intolérance. Et c'est pas juste, on va cibler, on va être juste homophobe, puis on va être pas du tout raciste. J'ai l'impression que c'est un lot, en fait, de pas accepter les autres, enfin, ceux qui est pas comme moi. C'est un lot, et effectivement c'est là où je crois en la convergence des luttes. Après, je pense tout à fait qu'on peut être racisé et être ultra homophobe. De la même manière, on peut être effectivement gay ou lesbienne et être extrêmement raciste. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que en fait, pour moi, ça fait partie de la même chose. C'est en fait, on est tous humains. Pour moi, on est tous normaux, entre guillemets. On est humain, on a deux bras, deux jambes, voire il nous manque un bras, il nous manque deux jambes, mais on a un cœur, on a un cerveau, on est humain, et pour moi c'est ce qui fait qu'on est tous pareils. Les petites différences de couleur de peau, de culture, de religion, en fait, en vérité, c'est tout ce qui fait une minorité, mais en réalité, les gens qui peuvent pas accepter ces différences-là, il faut de la pédagogie, il faut de la lutte et il faut de la colère pour pouvoir se faire accepter. Mais voilà, moi effectivement, je pense que les luttes, c'est important que... On choisit ses luttes, évidemment, on peut pas lutter pour tout et partout, mais après, je pense qu'il y a quand même des similitudes et que c'est l'intolérance qu'il faut combattre en général, ouais.
Enfin, Lisa Mandel, puisque cette journée contre l'homophobie organisée par Radio France coïncide avec le Festival de Cannes, c'est à Cannes où on a vu un grand film mettant en vedette deux jeunes filles, un amour donc de deux jeunes filles, donc un amour lesbien, et c'est bien sûr le film d'Abdelatif Kechiche, La vie d'Adèle, adapté d'une bande dessinée de Julie Marot.
Bah oui, tout à fait. Alors après, le film a un peu, bon, la première partie est très proche de la BD, la deuxième s'en éloigne. Kechiche, ce que moi j'ai pu entendre et ce que j'ai compris de son film, c'est que c'était plus la lutte des classes dont il parle dans ce film-là, plus que de l'homosexualité. Et je pense que, enfin, ce que je veux dire, c'est que il a mis deux femmes en scène pour pouvoir vraiment parler de la lutte des classes dans son essence, puisqu'il n'y a pas un rapport homme-femme. Donc on est que dans deux personnes du même sexe, mais pas de la même classe sociale. Et je pense que quelque part, ça simplifie, enfin, ça simplifiait pas, mais ça rendait vraiment, ça mettait en avant la lutte des classes. Il n'y avait pas de notion d'origine de pays, il n'y avait pas de notion de rapport homme-femme, de sexisme. C'était vraiment ça qu'il a voulu faire, parce que je sais pas, il me semble que j'ai entendu des interviews de lui où il disait, mais moi j'ai pas voulu traiter de l'homosexualité, j'ai voulu traiter de la lutte des classes. Et il a choisi deux femmes, voilà, je pense quelque part pour ça aussi, parce que sûrement la BD lui avait parlé, mais voilà.
Le bleu est une couleur chaude, c'est ça?
Oui, c'était La vie d'Adèle en film, voilà. Il a changé le titre, mais effectivement au départ c'est le bleu est une couleur chaude de Julie Marot, qui raconte le voyage initiatique d'une jeune fille dans le militantisme et dans la découverte de soi, quoi.
Lisa Mandel, il y a eu cette fameuse polémique à Angoulême, le Festival international de la bande dessinée, pour rappeler que les femmes n'étaient pas très présentes ou pas assez représentées. Vous vous en souvenez, puisque vous avez été très active à ce moment-là. Ça a été dénoncé aussi bien par des dessinateurs hommes, comme Riyad Satouf, que par des auteurs femmes, y compris par Florence Sestac, qui longtemps a été la seule à avoir décroché le Grand Prix. Est-ce que, dans ce milieu de la bande dessinée, il y a aussi cette question qui se pose sur la tolérance?
Bah oui, enfin, je veux dire, ça, c'est une question de la tolérance qui se pose partout. Après, oui, effectivement, c'est un milieu qui a été extrêmement masculin pendant très longtemps et qui aujourd'hui se féminise. Et comme d'habitude, ben, quand ça change, ça met les mentalités changent plus lentement que la réalité, en fait. Donc j'ai été très active à ce moment-là, mais comme moi, comme beaucoup de femmes, j'étais pas du tout été une des plus actives. Mais évidemment, c'était un peu énervant de voir que dans une sélection de Grand Prix, il y avait aucune femme qui était sélectionnée. C'était surtout ça qui a déclenché l'ire du collectif. Donc on s'est monté en collectif de créatrices de bandes dessinées contre le sexisme. Parce qu'à un moment donné, oui, on a eu l'impression d'être invisibilisé, alors qu'en fait, d'après les derniers sondages, on est 25% de la population des créateurs de BD maintenant. Donc, on n'est pas 5 pelés comme on était il y a 25 ans. Donc, effectivement, quand on est un quart de la population, on peut plus dire que la profession est essentiellement masculine. Je pense que dans 15 ans, la bande dessinée sera mixte, parce qu'aujourd'hui, dans toutes les écoles d'art et les écoles de BD, la majorité des élèves sont des femmes. Donc, à mon avis, ça va complètement s'équilibrer dans la prochaine décennie. Et déjà maintenant, on voit arriver un nombre de femmes incroyable. Moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans, on croyait que j'étais la libraire ou que j'étais l'assistante. Et souvent, on pensait pas que j'étais la dessinatrice. Aujourd'hui, ça n'arrive plus. Il y a tellement d'autrices que les gens ont commencé à intégrer qu'il y avait des femmes qui pouvaient faire de la BD et que c'était pas extraordinaire, quoi.
Merci Lisa Mandel. Le Réveil culturel, c'est terminé. Vous pouvez nous réécouter ou vous abonner au podcast de l'émission en passant entre autres par franceculture.fr. Dans un instant, les informations, les petits matins continuent sur France Culture. Nous, on se retrouve lundi en compagnie de Noël Herpe pour parler de cinéma et de littérature. Bon week-end.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Influence, une histoire de l'art au présent, demain à 22h25 sur France 5. Cette nouvelle collection documentaire met en lumière des artistes contemporains au sommet de leur art. Découvrez le cinquième numéro, Emmanuelle Haïm, la femme orchestre. La chef d'orchestre propose sa version du grand opéra baroque de Handel, Rodelinda. Influence, une histoire de l'art au présent, demain à 22h25 sur France 5. Un partenariat France Culture avec le magazine d'art L'Œil. Chaque jour sur France Culture à midi, La Grande Table par Olivia Gisbert.
Il pose un regard neuf sur un sujet récurrent de son œuvre, le tourisme de masse. Ils viennent cette fois des quatre coins du monde pour photographier l'un des monuments les plus visités de France. Martine Parr les a alors photographiés, photographiant ou se photographiant pour une exposition visible, invisible à voir au château de Versailles. Attention, le petit oiseau va sortir.
Okay.
Cheese.
Okay. There you go.
La Grande Table, ce vendredi à midi et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal.
Bonjour. Bonjour Toufik, bonjour à tous. 4 ans de prison ferme à l'encontre de Patrick Balkany. Le parquet national financier s'est voulu exemplaire hier lors de ses réquisitions dans le procès pour fraude fiscale. Compte rendu dans un instant. Nous nous intéresserons ensuite à l'aide mise en place par certains syndicats étudiants à propos de Parcoursup. Les premiers résultats tombent depuis le milieu de semaine pour les jeunes inscrits et les déceptions peuvent être grandes. Et puis, nous avons appris la mort de l'architecte Yao Ming-pei. Il avait dessiné la pyramide du Louvre à Paris, mais il était aussi et surtout reconnu par ses pairs. Il se considéré comme un avant-gardiste, vous l'entendrez. Le mensonge a un prix que les époux Balkany doivent aujourd'hui payer. Voilà ce qu'estime le parquet national financier. Il a requis hier 4 ans de prison ferme à l'encontre du maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany. 4 ans, dont 2 avec sursis contre sa première adjointe et sa femme Isabelle Balkany. 10 ans d'inéligibilité pour tous les deux. Le PNF a requis un mandat de dépôt à l'encontre de Patrick Balkany. Par ailleurs, il pourrait donc être incarcéré dès le jour du jugement si une peine ferme est prononcée. Le parquet se veut exemplaire pour lutter davantage contre la fraude fiscale, Sarah Guibaudot.
Pour le parquet national financier, les prévenus n'ont tiré aucune leçon de leur précédente condamnation en 1997 pour prise illégale d'intérêts. Isabelle Balkany achète la villa Pamplemousse aux Antilles via une société écran alors que son mari comparaît devant le tribunal correctionnel. La fraude fiscale de l'ancien ministre du budget était infiniment moindre, rappelle le substitut Arnaud Delaguiche. Jérôme Cahuzac avait fini par coopérer et il avait réglé son arriéré d'impôt en arrivant à l'audience. Il avait été condamné à 3 ans d'emprisonnement ferme en première instance, peine ramenée à 2 ans ferme et 2 ans avec sursis en appel. Chacun son échelle des peines. L'avocat de Patrick Balkany s'insurge au contraire contre une justice rendue pour l'exemple et cite des jugements récents qui sont moins sévères. Il a fraudé, il va être condamné pour ça, plaide Éric Dupond-Moretti, mais c'est une autre époque. Et puis, le mandat de dépôt, est-ce que c'est utile, demande l'avocat, comme si le combat était surtout d'éviter au maire de Levallois d'être incarcéré, alors que lundi commence le deuxième procès où il est jugé pour blanchiment et corruption.
Et notons que le jugement dans la première affaire sera rendu le 13 septembre. Va-t-on vers un déremboursement des médicaments homéopathiques ? La Haute Autorité de Santé vient en tout cas de publier un projet d'avis favorable à ce déremboursement. L'organisme estime que les produits homéopathiques offrent un rendu médical insuffisant. Les laboratoires vont maintenant pouvoir répondre avant que l'avis définitif ne soit rendu le mois prochain. Lutter contre les contrats courts en général, c'est l'un des objectifs de la CGT en marge de la réforme de l'assurance chômage. La CGT, dont le 52e congrès annuel s'achève aujourd'hui à Dijon. Sauf énorme surprise, le secrétaire général Philippe Martinez, seul candidat à sa succession, sera réélu pour un nouveau mandat à la tête de la CGT. Et ce, malgré la zone de turbulence traversée en ce moment par le syndicat. Entre la baisse du nombre d'adhérents et la contestation des gilets jaunes, la CGT serait-elle dépassée ? Invité du journal de 22h hier sur France Culture, le politologue Jean-Marie Pernaud, spécialiste des mouvements sociaux, a livré son analyse.
Il y a eu d'entrée de jeu une méfiance sur le fait que à la base antifiscale de ce mouvement pouvait ressembler effectivement à des choses qu'on a connues dans l'histoire, qui étaient plutôt animées par des courants de droite ou d'extrême droite. Bon, en l'occurrence, c'était pas ça, la suite l'a montré, enfin le mouvement était beaucoup plus divers que ça. Mais en tout cas, beaucoup de militants CGT au niveau local sont allés sur les carrefours, etc. et ont découvert un peu cette complexité que la Confédération n'a saisie que tardivement. Et puis je crois que ce mouvement gouvernement, qui a des effets sur la politique du gouvernement, eh bien, il y a une certaine frustration syndicale, parce que d'abord, il est parti en dehors d'eux, il s'est maintenu en dehors d'eux, ce qui est nouveau dans notre histoire sociale. Je crois qu'il y a vraiment cette frustration. C'est quand même la première fois que ça arrive à la CGT.
Des propos recueillis par Stanislas Vazak. Refusé, admis, en attente, les premiers résultats aux vœux d'études sont tombés sur la plateforme Parcoursup mercredi soir. Une phase d'admission qui va se poursuivre jusqu'au 19 juillet prochain pour les près de 900 000 candidats aux études supérieures. Et pendant ce laps de temps, difficile pour certains jeunes, la FAGE et l'UNEF mettent à leur disposition des sites internet pour les accompagner. C'est la deuxième année consécutive que les deux principaux syndicats étudiants proposent cette aide, Olivia Chandiou.
Depuis les premiers résultats, la boîte mail du site SOS Parcoursup, créée par la FAGE, chauffe déjà. Les candidats viennent chercher conseil et réconfort, comme l'explique Orlane François, présidente de la FAGE, le premier syndicat étudiant.
On reçoit beaucoup de mails sur la plateforme qui nous disent « voilà, je suis en attente un peu partout, comment je fais, etc. » Donc il y a déjà un premier travail qui va être de les rassurer, de prendre en compte leur situation et dans un premier temps de leur dire qu'il faut attendre quelques jours avant d'être fixé. Donc on a d'abord un travail de rassurer les jeunes.
Un travail essentiel pour Louis Boyard de l'Union Nationale Lycéenne, car l'orientation post-bac, c'est une véritable épreuve.
Quand je parle d'une souffrance, d'être 8 000e en attente et d'être refusé, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voulait faire plus tard dans la vie, donc c'est tout un projet de vie qui s'écroule sous nos yeux en un jour. Vous êtes seul entre vous, votre écran et votre conscience, et c'est encore une fois très très dur à vivre.
Cette angoisse grandira crescendo jusqu'en septembre pour ceux qui n'auront toujours pas eu de réponse, d'où l'importance de solliciter les plateformes, insiste Orlane François. L'année dernière, année de lancement, la FAGE a accompagné 1500 jeunes.
Plus on va se rapprocher des dates limites, plus on va avoir un accompagnement qui va être d'aider à trouver des places dans la formation de son choix. Et donc là, c'est d'accompagner vers la commission d'accès à l'enseignement supérieur du rectorat. C'est s'assurer que la loi est respectée, parce que la loi, elle garantit une place dans la formation de son choix à chaque jeune. Le vrai problème, encore une fois, c'est la place l'enseignement supérieur, c'est ça qui manque en priorité. Ce qui pêche dans beaucoup d'universités, dans beaucoup de formations, c'est le manque de place. Donc à partir du moment où il restera un manque de financement, on aura toujours des jeunes à la rentrée qui seront dans une formation qui ne leur correspond pas, ou pire, qui n'auront pas d'affectation.
Selon les syndicats étudiants, à la rentrée prochaine, encore plusieurs milliers de candidats se retrouveront sans formation.
Il était l'un des architectes les plus connus au monde. Le sino-américain Yao Ming Pei est mort la nuit dernière à l'âge de 102 ans. Pei avait notamment repensé le musée du Louvre au milieu des années 80. Il avait bâti la fameuse pyramide en verre. Mais pendant un demi-siècle, il a aussi dessiné de nombreux bâtiments dans le monde entier. Il était d'ailleurs reconnu chez lui aux États-Unis, Gregory Phillips.
Le voici en 1983, quand il reçoit le prix Pritzker, considéré comme le Nobel d'architecture. Pei a déjà une longue carrière derrière lui. Arrivé à l'âge de 18 ans aux États-Unis, il a étudié au MIT, puis à Harvard. Ça vous amuserait sans doute de savoir que dans les années 40, une maison que j'avais dessinée à Cambridge pour un ami avait été considérée comme invendable parce que trop moderne. Mais effectivement, j'appartiens à cette génération d'architectes américains inspirés par le modernisme. Au milieu des années 60, Jackie Kennedy demande à Pei de bâtir à Boston le mémorial et la bibliothèque dédiée à son mari assassiné. Puis ce sera la National Gallery à Washington, et en 83, en France, Pei est choisi par François Mitterrand pour repenser entièrement le musée du Louvre. Voici l'architecte 6 ans plus tard, suivi par la télévision américaine, sous la pyramide du Louvre, inversée. J'ai trouvé ça amusant de faire, comme disent les Français, une folie. Alors j'ai renversé la pyramide vers le bas. Ça amène la lumière d'en haut, sans occuper l'espace. Le cabinet new-yorkais de Pei enchaînait les projets à travers le monde, tandis que lui, sur la fin de sa carrière, préférait se consacrer à des chantiers plus personnels, comme le musée d'art de Suzhou, la ville de son enfance, près de Shanghai.
Yao Ming Pei est donc décédé, il avait 102 ans. Des pourparlers de paix entre gouvernement et opposition vénézuélienne, ils se déroulent cette semaine à Oslo, en Norvège, mais selon l'opposant au pouvoir Juan Guaido, il n'y a pour le moment aucune forme de négociation avec le gouvernement de Nicolas Maduro. Nous en venons à cette énigme désormais résolue. Les nombreux séismes ressentis à Mayotte depuis un an ont pour origine l'éruption d'un volcan sous-marin. Il se trouve à 50 km à l'est de l'île, située dans l'océan Indien, et il a été découvert par plusieurs organismes scientifiques français. Sophie Bécherel a pu les joindre.
C'est quand même un beau bébé, hein, parce que ça fait 4 km de diamètre. et 800 mètres de haut.
Éric Humler, chercheur au CNRS, a coordonné la campagne Éclair, mise sur pied pour tenter de comprendre pourquoi Mayotte, jusque-là tranquille et sans activité sismique connue, avait enregistré 1800 secousses depuis un an. Grâce aux sismomètres déposés au fond de l'eau, grâce à des relevés bathymétriques, ce volcan qui a émergé des fonds abyssaux a pu être décrit.
Il est au fond de l'océan à 3500 mètres de profondeur. Et il y a un panache de gaz qui sort du sommet de ce volcan, qui est un panache qui fait 2 km de haut. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près la surface du bois de Boulogne et 2,5 fois la hauteur de la tour Eiffel.
Sur un précédent relevé des fonds marins réalisé il y a 4 ans par un navire militaire, le volcan était absent. Sa naissance est donc récente. Elle enthousiasme les chercheurs. Anne Friant est directrice adjointe des observatoires à l'Institut de physique du globe de Paris.
On peut dire que c'est une découverte extraordinaire. On n'a pas souvent l'opportunité d'assister comme ça à la naissance d'un volcan, en fait. C'est très rare.
Va-t-il continuer à grossir ? Impossible à prédire, disent les scientifiques. Pour qui il faut continuer la surveillance. Ils ont cependant estimé à 20 ou 30 km de profondeur l'épicentre des secousses sismiques. C'est beaucoup et c'est une bonne nouvelle car cela réduit la puissance des tremblements de terre ressentis par les Mahorais.
Une chaude humidité à Mayotte ce vendredi. En France métropolitaine, nous n'aurons que l'humidité aujourd'hui. Une dégradation arrive par le sud pour gagner l'Île-de-France et Rhône-Alpes à la mi-journée. Comptez 13 degrés ce matin à Amiens, 15 à Besançon, Lyon et Bordeaux, 16 degrés à Paris et sous la pluie à Nice. Il est 6h40 sur France Culture, c'est l'heure du Journal des Idées. Avec vous Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
En Algérie, le mouvement de contestation ne faiblit pas Jacques, tandis que l'armée tente de garder la main.
Oui, dans Charlie Hebdo, Kamel Daoud souligne l'une des particularités fortes de ce mouvement. Le printemps algérien a vu les femmes sortir. Elles ont été les premières à manifester dès le 22 février. Selon lui, avec le soulèvement de la ruralité, c'est l'engagement des femmes qui a donner son ampleur et sa légitimité à la contestation, car c'est une véritable révolution que de les voir descendre dans la rue. Sur le poids des traditions, l'écrivain ajoute que si le statut de la femme ne change pas, l'Algérie ne guérira pas. À propos du Coran, il insiste sur l'importance de l'interprétation qui a toujours existé, mais si elle peut être une porte ouverte sur l'infini, elle peut aussi se ramener à une invitation au meurtre. Donnez un livre de cuisine à un cannibale, il vous mangera avec. Sur son rôle d'écrivain, il évoque un devoir de témoignage et de lucidité. Face à la dictature du livre unique, les livres sont la démocratie. La lecture vous donne 1000 corps et 1001 pays. Et lire, c'est prier sans se soumettre. On le sait, Kamel Daoud tient une chronique hebdomadaire dans Le Point. Cette semaine, elle porte sur les populistes et leur propension à user du « nous », signe corporatif, une nouvelle famille de dirigeants qui prétendent s'exprimer au nom du peuple et, malgré de profondes divergences, exalter ainsi entre eux une sorte de fraternité des vestiaires. Mais l'écrivain n'a pas hésité à se prononcer sur le printemps algérien et plus généralement sur son pays dans cette chronique, comme ailleurs dans la presse française et algérienne, sur la position qui est la sienne à cheval sur les deux rives de la Méditerranée. Kamel Daoud est conscient de l'ambiguïté qu'elle peut représenter, traître au sud et dissident au nord, ne parvenant pas toujours à échapper au casting occidentale qui chamanise les intellectuels dissidents. Pour la philosophe Razika Adnani, c'est notamment la cause des femmes qui peut concrétiser le désir de modernisation de la société algérienne qui s'exprime aujourd'hui. Sur le site de Marianne, elle incrimine la force des principes traditionnels, la hiérarchie appliquée à la répartition des droits entre les femmes et les hommes, entre les musulmans et les non-musulmans, entre les gouvernants et les gouvernés, dans l'échec du projet de modernisation de l'Algérie sur le plan politique et social. Et ce, depuis l'indépendance, la lutte pour le pouvoir, motivée par les intérêts personnels qui a conduit à la situation actuelle, est due, selon elle, à l'attachement fort des Algériens aux normes d'organisation traditionnelles. Je cite, « Dans une culture tribale, qui est une culture traditionnelle, il est difficile d'envisager d'autres façons de faire de la politique. » Razika Adnani observe que les concepts comme égalité et liberté ou encore laïcité, démocratie et modernité continue de faire peur. Diabolisé par le discours conservateur et salafiste tout au long du XXe siècle, ils font partie de la liste des termes qui sont bannis par beaucoup sans même chercher à les comprendre. Elle déplore le fait que les Algériens brandissent des slogans revendiquant la démocratie et la justice sociale, mais n'accepte pas, pour beaucoup d'entre eux, l'égalité homme-femme, et dénonce le paradoxe, mais aussi le piège, consistant à promouvoir une modernisation politique en cohérence avec les traditions. Enfin, elle milite pour une réforme de l'islam afin de le libérer, lui aussi, de l'emprise des traditions, seule manière de desserrer l'étau de la religion sur la politique et d'émanciper l'État. Kamel Daoud évoquait son ouverture au monde pour guérir de cette identité malmenée par la colonisation, puis par la dictature. Les archives générées par la colonisation commencent à être analysées par les historiens jusque dans ce qu'elles révèlent en creux de la situation des populations locales, car elles sont pléthoriques, lois et règlements, recensements et statistiques, plans cadastraux, mais elles restent relativement discrètes sur les conséquences concrètes de ce quadrillage administratif sur les premiers concernés. Dans Le Monde, André Loez évoque la journée d'études prévue en juin aux Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence, dont l'intitulé indique bien la volonté de sonder ces documents jusque dans leurs non-dits, déconstruire les archives coloniales. L'historien chronique trois livres allant dans ce sens, dont l'un est consacré à un village de l'Algérie française. C'est l'étude de Colette Zitniki, publiée chez Belin sous le titre « Un village à l'heure coloniale, Draria, 1830-1962 ». L'échelle locale permet de scruter avec précision les mécanismes par lesquels les populations autochtones furent dépossédées de leurs terres, d'un quotidien qui s'ancre dans toute une série de faits exceptionnels. Les archives ne révèlent qu'en filigrane l'inégalité de conditions de ceux qui vivent côte à côte, comme ce litige portant sur l'accès à un cimetière indigène en lisière du champ d'un colon. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, la guerre commerciale Chine-USA.
Oui, vous l'avez peut-être entendu, Donald Trump vient de signer hier un décret pour barrer l'accès au marché américain à l'opérateur chinois Huawei. Dernière salve d'une semaine d'escalade dans la guerre commerciale entre Pékin et Washington. Semaine qui avait commencé par des représailles, elle-même inédites, de la Chine. Hier, le président Macron déclarait qu'une guerre commerciale ne serait pas appropriée, mais par où commence la désescalade? On voit ça avec vous, Philippe Lecor, bonjour.
Bonjour, Xavier Martinet.
Merci d'être au téléphone depuis Boston. Vous y êtes senior fellow à la Harvard Kennedy School. Alors, ces représailles chinoises, elles interviennent après une nouvelle hausse de droits de douane américains il y a une semaine exactement. On atteint 450 milliards, voire un peu plus, depuis l'été dernier de produits chinois taxés. Pékin a assuré hier que l'impact sur son économie était encore, je cite, contrôlable. Mais quand même, avec Huawei, c'est un coup inattendu et un coup dur, une entreprise chinoise.
Absolument. Bon, c'est-à-dire que Huawei, si vous voulez, a investi énormément sur la 5G. Donc, elle est en pleine campagne de relations publiques pour essayer de sauver son image, notamment en Europe, où il y a beaucoup d'enjeux, et même dans le reste du monde. Mais aux États-Unis, clairement, la grande majorité des experts et la classe politique réunie, que ce soit démocrates ou républicains, et notamment au Congrès, ne veulent pas entendre parler de donner des contrats de ce qu'on appelle les infrastructures télécom à des sociétés chinoises dans le climat actuel, et je pense d'ailleurs jamais. Donc du coup, le décret présidentiel qui interdit à des sociétés américaines de se fournir auprès de groupes étrangers, donc aucun n'est cité, mais on sait qu'il y en a au moins deux, des groupes chinois qui sont Huawei et ZTE, qui ont essayé pendant des années de pénétrer le marché américain sans succès. Donc là, c'est un vrai problème, disons, aussi des deux côtés de l'Atlantique, puisque en Europe, on a une attitude un peu différente. Mais là, il est clair que, si vous voulez, on a peur des ce qu'on appelle les backdoors, les portes détournées dans les réseaux télécoms, et la 5G, qui va être quand même une montée en gamme, je dirais, des réseaux téléphoniques pour la téléphonie mobile. Ça va donner aux constructeurs beaucoup de poids disons, à l'intérieur des systèmes, et donc bien entendu les États-Unis qui sont quand même dans une situation de confrontation ne veulent pas entendre parler d'avoir ça sur leur territoire.
Alors quant à voir si ça va servir de levier dans les négociations, justement, pourquoi est-ce qu'il y a une semaine, ces négociations ont achoppé, alors que depuis quelques semaines, il y avait eu quelques timides avancées sur un certain nombre de points, la participation des entreprises étrangères dans les entreprises chinoises, la question des transferts de technologies dits forcés. Qu'est-ce qui a bloqué vendredi dernier?
Si vous voulez, c'est une discussion quand même de très longue durée. Et il est clair que ce qui achoppe, c'est le poids du secteur d'État en Chine et le fait que les champions nationaux chinois, disons, dominent le marché domestique. Et donc les groupes américains, dans la technologie en particulier, mais aussi dans les services financiers, et dans le e-commerce, enfin dans tous les secteurs clés de l'avenir, ne peuvent pas vraiment trouver leur place. Il y a bien sûr le problème de la propriété intellectuelle, mais je dirais que le poids du secteur étatique chinois, des entreprises d'État, disons, empêche la discussion d'avancer. Et donc, si vous voulez, le fait que la Chine achète en masse des produits américains pour essayer de résorber le déficit, ça ne réglera pas les problèmes, parce que les problèmes technologiques en particulier vont continuer. La guerre technologique entre les deux pays, la Silicon Valley contre, si vous voulez, les équivalents chinois, notamment le quartier de Haidian près de Pékin ou à Pékin, ça va continuer. Il y a une confrontation de long terme avec finalement peu de solutions à part des choses vraiment cosmétiques qui risquent de durer le temps d'une campagne électorale.
Oui, c'est ça, quoi, confrontation de long terme ou de principe, parce que la semaine dernière encore, ou il y a deux semaines, Robert Lighthizer, le négociateur américain, semblait se plaindre de ce que les Chinois revenaient sur un certain nombre de termes. Mais comme vous le dites, la question par exemple des subventions aux entreprises d'État chinoises, ce serait vraiment difficile pour Pékin de revenir là-dessus et de conclure un accord. Est-ce que c'est même envisageable?
C'est très difficile dans la mesure où, si vous voulez, le régime tel qu'il est aujourd'hui, il est bâti sur le patriotisme, le nationalisme, la fierté des Chinois, ce qu'on appelle la renaissance, le rêve chinois. Et donc, remettre en cause les champions nationaux, ça irait à l'encontre de ce que prétend Pékin. Alors, on pense quand même, si vous voulez, qu'il peut y avoir une rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump au Japon lors du G20, donc dans quelques semaines. Mais, si vous voulez, ça risque, encore une fois, de ne pas déboucher sur grand-chose, parce que vous avez à Washington une ambiance qui est, je l'ai encore vécu moi-même au Congrès il y a peu de temps, une ambiance qui est quand même très consensuelle, hein, que ce soit les démocrates ou les républicains, par rapport à la montée en puissance chinoise, avec un discours quand même très très dur. Alors il y a aussi la question des droits de l'homme, enfin tout ça est un petit peu mis sur la table. Certains trouvent que la guerre commerciale, l'approche commerciale de Donald Trump n'est pas la bonne, et qu'en revanche, il faudrait mettre l'accent sur les valeurs, sur la démocratie, sur les valeurs que défendent les pays occidentaux, le Xinjiang, enfin toutes les questions, si vous voulez, sensibles, qui finalement font du tort à la Chine, mais la Chine semble peu s'en préoccuper et essaie de se contenter de régler les problèmes commerciaux. Mais je vous dis, je pense pas que ça ira très loin, cette négociation.
Ouais, et est-ce qu'on va pas atteindre bientôt un pic des sanctions, à savoir que les États-Unis, je crois qu'il y a une réserve encore de 325 milliards de dollars d'importation sur lesquels les États-Unis peuvent augmenter des droits de douane, que pour les États-Unis, il reste pratiquement rien en termes d'importation américaine à taxer. Donc ça, c'est pour les sanctions. Est-ce que du coup, ça ne va pas les amener à renégocier, à abandonner cette escalade des sanctions assez démonstrative finalement?
C'est-à-dire qu'on peut prendre le risque de faire une guerre commerciale frontale, et mais ça risque, si vous voulez, de... Vous avez bien vu la réaction des marchés financiers il y a quelques jours. La bourse est un des indicateurs sur lesquels Donald Trump se base, et donc ce ne serait pas une bonne nouvelle. Encore une fois, dans une période préélectorale, vous avez 23 démocrates qui se sont déclarés candidats à la présidence en 2020. Et donc, il y a quand même un risque politique. Il faut que Donald Trump engrange des succès. Et côté chinois, là aussi, il y a quand même un débat sur la façon de gérer les États-Unis, et on critique le fait que Xi Jinping est revenu sur la politique de faire profil bas, etc., la politique extérieure de Deng Xiaoping, qui était celle d'avancer pas à pas et de ne pas se lancer dans des confrontations avec l'Occident.
Jusqu'à parler de colombe chinoise au sein de l'establishment et du Parti communiste, c'était le South China Morning Post qui avait titré sur ça.
Bah, en tout cas, les colombes, à l'approche de l'anniversaire du 4 juin 1989, elles sont assez discrètes. C'est plutôt la répression qui domine, que ce soit au Xinjiang ou parmi les intellectuels chinois. Donc, si vous voulez, vis-à-vis de l'international, bon, il est clair que Trump a un petit peu servi les critiques de Xi Jinping, qui sont finalement assez contents de voir que Xi Jinping réussit un peu moins que ce qu'il dit. En même temps, personne ne conteste vraiment le leadership de Xi, qui maintenant bénéficie d'un mandat sans limite comme président de la République populaire de Chine. Et donc, il tient tous les leviers. Maintenant, si l'économie commence à souffrir et que les classes moyennes chinoises souffrent de cette situation de sanctions et que les entreprises chinoises, en particulier, sont obligées de licencier et voient leur carnet de commandes baisser, ça risque d'avoir des conséquences sociétales en Chine. Et l'économie chinoise, de toute façon, est en train de ralentir. Vous avez le problème de l'inflation, de l'immobilier qui a été géré plutôt mal ces dernières années avec des immeubles vides, etc., des villes quasiment fantômes. Donc toutes ces choses font que la Chine ne peut pas non plus se permettre d'être en guerre frontale avec les États-Unis sur le plan commercial.
Bon, et dernière chose, vous avez souligné la rare unanimité qu'il pourrait y avoir entre démocrates et républicains au sujet de l'attitude à tenir envers la Chine. La force est la seule manière de l'emporter face à la Chine, disait Chuck Schumer du Congrès récemment. Le Congrès, justement, vous a entendu comme témoin dans un questionnement sur l'influence croissante de la Chine en Europe et en Eurasie. Qu'est-ce qu'il en ressort que les démocrates cherchent des modèles du côté de l'attitude européenne ?
C'est-à-dire que les démocrates cherchent à garder le lien avec l'Europe. Ils croient dans l'alliance transatlantique, donc ce n'est pas forcément ce que défend évidemment l'administration, qui envoie des signaux très divergents à travers les tweets de Donald Trump, à travers les déclarations de certains de ses ambassadeurs ou de son secrétaire d'État. Le Congrès qui domine aujourd'hui la Chambre des représentants en particulier n'est pas pro-chinois dans sa majorité, on peut le dire. Hein. Nancy Pelosi, par exemple, a toujours été très critique par rapport à la Chine, sur les droits de l'homme notamment. Mais aujourd'hui, ils pensent, les membres du Congrès, qu'il faut rallier les alliés traditionnels de l'Amérique, notamment face à la Chine. Or, ce n'est pas exactement la position que défend Donald Trump, qui pense pouvoir gérer de manière bilatérale les relations avec la Chine d'un côté et avec l'Europe de l'autre.
Eh bien, écoutez, ce sera justement à avoir lors de cette potentielle rencontre Trump-Xi au G20 à Osaka à la fin du mois. Mais merci beaucoup pour aujourd'hui, Philippe Lecor depuis Boston.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Parlons culture, autrement, l'anachronique culturelle. Mathilde Serrel.
Et si nous faisions un voyage dans le temps ? Posons notre vaisseau spatial à l'inauguration de la fresque du Jugement dernier, devant le chantier des colonnes de Buren, ou à la première du Sacre du Printemps. L'anachronique culturelle vous propose de revivre ces grands événements de la culture comme si c'était hier, pour comprendre ce qu'ils disent de l'époque, mais aussi de notre présent.
L'anachronique culturelle, Mathilde Serrel, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr. Chaque vendredi dès 18h20, le rendez-vous du bel air. Hervé Gardette, Arnaud Laporte.
Tiens Hervé Gardette.
Mon Dieu, mais c'est vous Arnaud Laporte.
Vous m'avez reconnu, je n'ai pas changé. Et une chose qui ne change pas, c'est qu'on donne rendez-vous à nos auditrices et auditeurs au bel air tous les vendredis. Pourquoi ?
Alors, 18h20, c'est le Club des Idées.
19h, la dispute cinéma ou série.
Tous les vendredis dans Cobel Air.
Les experts.
Le rendez-vous du bel air, en direct, en public, du bar de la Maison de la Radio. Tous les vendredis à 18h20 et sur franceculture.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, on rejoint les matins au Festival de Cannes avec Guillaume Herner. Bonjour Guillaume.
Mais oui, on y est. Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et bonjour à tous.
Et vous y êtes avec cette grave question. Pour vous, c'est quoi le cinéma ?
Eh oui, c'est l'une des questions les plus périlleuses du moment. C'est particulièrement risqué pour moi, qui suis au Festival de Cannes, de vous répondre. Alors pour avoir donné sa réponse il y a 2 jours, l'acteur Édouard Baird a essuyé quelques noms d'oiseaux sur les réseaux sociaux. La réponse d'Édouard Baird, d'ailleurs, je vous la cite. Le cinéma, a-t-il dit, c'est la salle de cinéma, c'est être ensemble, ce n'est pas manger des pizzas chez soi devant Netflix. Alors on peut partager ou pas cet avis, reste à comprendre pourquoi il a suscité des réactions haineuses. Ça n'est probablement pas pour la salle de cinéma, ni même pour les pizzas, c'est donc fort probablement pour l'opposition entre le cinéma dit légitime, traditionnel, et la vidéo en ligne, autrement dit Netflix. Franchement, on dit que la jeunesse ne s'engage pas, je n'aurais pas parié qu'elle serait prête à mourir pour Netflix, à lire en tout cas. Les réactions, on n'en est pas loin. Que reproche-t-on à Edouard Baird d'être rétrograde, ce qui équivaut bien entendu par ces temps modernes à la peine capitale, encore que je ne suis pas certain que s'il avait dit que la musique c'était par exemple des vinyles ou rien, je ne suis pas sûr qu'il aurait essuyé tant de critiques. À croire qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique entre la salle de cinéma et Netflix, peut-être parce que le cinéma c'est le cinéma, pour reprendre l'argumentation de ceux qui disaient le théâtre c'est le théâtre. Alors peut-être est-ce la définition qui ne passe pas si je disais par exemple le cinéma c'est des zombies sur un écran, parce que cette année, comme vous le savez, à Cannes, il y a beaucoup de zombies, surtout à 6h du matin, je dois dire. Quand vous traversez le palais des festivals à cette heure-là, il n'y a que des festivaliers et des matinaliers, autant dire des zombies. Mais revenons à notre définition, ce qui probablement ne passe pas dans cette définition du cinéma ou dans une définition de ce qu'est la culture, c'est de dire ce qu'elle n'est pas. L'époque n'est plus à la culture cultivée, la verticalité est conspuée en politique, elle l'est aussi en art. Désormais, le cinéma, c'est ce que l'on considère comme tel et finalement peu importe la manière dont il est regardé et découvert, puisque l'art est observé comme l'expression d'une subjectivité, sa réception, elle aussi, doit être subjective et la caméra subjective est désormais incompatible avec une définition objective du cinéma.